universel. Et...
Radio G. 101.5 FM.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur Radio G au 101.5 FM et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de Topette. Vous ne m'avez peut-être pas reconnu et c'est normal car c'est moi Simon qui vais animer l'animation du soir, l'émission du soir. En cette fin de saison, Pierre Benoît a décidé de me confier cette animation donc ce soir. On se retrouve donc comme d'habitude pour une émission remplie de bonne humeur en parlant de la culture et du territoire. À mes côtés ce soir, il n'est quand même jamais très loin, on a Pierre Benoît. Bonsoir Pierre Benoît.
Bonsoir Simon, t'as vu, je t'ai pas pris ta place cette fois.
Oui, c'est bon, parfait, impeccable. Ce soir, tu t'occupes de l'interview du soir en compagnie de Marie. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Est-ce que tu peux nous dire qui on aura ce soir en tant qu'invité très rapidement ?
Eh bien, nous allons parler avec Quentin Mousserion, si je ne me trompe pas, comédien et musicien de la Compagnie du Poulpe.
Très bien, bonsoir Quentin, comment ça va ?
Bonsoir, ben, ça va très bien, très heureux de revenir ici.
Parfait.
C'est, bien Quentin Mousserion du coup.
Mousserion.
Mousserion, voilà, pardon.
C'est pas grave.
Dans la soirée, on aura également la chronique de Mathieu avec Let's Game. Bonsoir Mathieu également, comment ça va ?
Bonsoir Simon, très bien et toi ?
Bon ouais, nickel. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce dont on va parler avec toi ce soir ?
Ça fait un certain temps que j'étais pas venu, donc on va faire un petit récap de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui va se passer sur les 6 prochains mois à peu près.
Dans la vie ?
Ouais,
partout, dans le monde.
Eh bah, ben très bien, bon, on a hâte.
Dans le monde vidéoludique.
Et bon, on a hâte d'écouter tout ça alors. Mais avant toute chose, on retrouve comme d'habitude le Flash Info avec Colin.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et on retrouve donc Colin avec le Flash Info.
J'ai l'info. L'actualité à Angers et dans le département de Maine-et-Loire, sur Radio G.
Et on commence avec un rendez-vous sportif qui a une nouvelle fois attiré la foule à Angers. La 14e édition de Tout Angers Bouge a rassemblé plusieurs milliers de participants ce dimanche 7 juin dans les rues de la ville. Au total, plus de 5000 coureurs se sont élancés sur les 3 parcours proposés, 8, 12 et 25 km. Les départs ont été donnés depuis l'esplanade Cœur de Maine pour les 2 plus courtes distances, tandis que le parcours de 25 km s'est élancé depuis le lycée du Fresne à Sainte-Gemme-sur-Loire. Comme chaque année, les participants ont traversé plusieurs lieux emblématiques du patrimoine angevin, parmi lesquels la cathédrale, les jardins de la préfecture, le musée Jean Lursa ou encore pour la première fois le Grand Théâtre. L'événement s'est achevé au lac de Maine où les coureurs ont retrouvé le village des sports et les nombreuses animations proposées tout au long de la journée. On poursuit avec un fait divers et une avancée importante dans une enquête pour meurtre à Angers. Un suspect a été interpellé samedi soir dans le centre-ville d'Angers dans le cadre de l'enquête sur la mort d'un homme de 55 ans, retrouvé le 1er juin dernier dans un appartement de la rue de la Manufacture. L'autopsie avait révélé qu'il avait succombé à un coup de couteau porté à la poitrine, conduisant le parquet à ouvrir une enquête pour meurtre. Selon les premiers éléments de l'enquête, les investigations s'étaient rapidement orientées vers l'entourage de la victime, notamment deux hommes qui partageaient le logement et avaient quitté les lieux avant la découverte du corps. L'homme a été interpellé et a été placé en garde à vue. Les enquêteurs cherchent désormais à établir son rôle exact et à reconstituer les circonstances précises du drame. Et on termine avec plusieurs changements à venir sur le réseau de transport en commun angevin. À partir de septembre 2026, le réseau Irigo va renforcer son offre avec des horaires élargis et de nouveaux services destinés aux usagers. Les 3 lignes de tramway ainsi que les lignes de bus 1 à 4 circuleront désormais jusqu'à 1h du matin, soit 1h de plus qu'actuellement. Un service de transport à la demande de nuit sera également expérimenté les nuits de jeudi à dimanche afin de permettre aux habitants de rentrer plus facilement et en toute sécurité après une soirée. Autre nouveauté, un dispositif de transport à la demande sera lancé pour les salariés travaillant en horaires décalés dans certaines zones d'activité de l'agglomération, notamment à Saint-Barthélemy d'Anjou et Verrières-en-Anjou. Enfin, les abonnements conserveront le même tarif, tandis que le prix du ticket unitaire augmentera de 10 centimes à partir du 1er juillet, passant de 1,60€ à 1,70€.
J'ai l'info sur Radio G.
Merci à toi Colin pour ce tour de l'actualité du territoire. Et bien on enchaîne sans plus tarder avec la première partie de l'interview de l'invité du soir avec Marie et Pierre Benoît.
L'invité de Topette sur Radio G.
Merci beaucoup Simon, Marie, est-ce que je te laisse toi présenter notre invité et le sujet avec lequel il vient ce soir peut-être ?
Pas de souci. Eh ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce soir nous sommes avec Quentin Mousseron. Mousseron, je vais pas y arriver.
Mousserion, non, il y a pas
Mousserion.
Un Mousserion.
Enfin, comédien et musicien donc à la Compagnie du Poulpe. Donc bonsoir Quentin.
Bonsoir.
Ce soir, on va parler justement de deux spectacles, donc de Feu et Lumière, le premier à parler du 14 juin.
Oui.
Et également un fil à la patte le 24 juillet.
Oui.
Avant tout, moi j'avais quand même une petite question par rapport à la compagnie. Je me posais la question, pourquoi le poulpe justement ? Pourquoi la compagnie du poulpe ?
Alors, ça commence fort.
Pourquoi la compagnie du poulpe ? Eh ben parce qu'en fait, on aime bien l'idée des abysses. Donc la compagnie du poulpe a été créée par Anne-Claire Joubard et moi je l'ai rejoint très rapidement dans cette aventure. Et l'idée c'est qu'on aime bien les abysses, tout ce qui est très sombre, très profond, et on aime bien l'idée de du contraste avec la lumière, les choses lumineuses, l'harmonie, l'amour. Et le poulpe vivant dans les abysses, on aimait bien cet animal et on aimait bien le fait que les tentacules puissent représenter aussi tout ce qu'on fait avec la compagnie. On a des spectacles pluridisciplinaires avec de la musique, du graphisme, et on a aussi plusieurs axes avec la compagnie. On crée du spectacle vivant, mais aussi on a un axe très important de transmission. On donne des ateliers, beaucoup d'ateliers. L'année prochaine, on part sur quelque chose qu'on appelle la Poulpe Academy, qui est une forme d'atelier un peu proche d'une école. C'est-à-dire que au lieu de faire de travailler sur un texte ou une pièce à l'année, on va avoir plusieurs intervenants dans l'année et les adhérents à nos ateliers vont pouvoir traverser par exemple des cours d'improvisation, des cours de lecture théâtrale, mais aussi du théâtre à texte. On espère après avec une collègue pouvoir leur proposer de l'écriture radiophonique et d'autres choses comme ça. Et on a un dernier axe qui est la création d'événements l'été et l'hiver. Et l'été, là, cet été, on a par exemple la tournée du Poulpe dont font partie le fil à la patte et De Feu et Lumière.
Il connaît vachement bien le sujet, hein,
ouais,
Quentin.
je vais y arriver. Et justement, comment il est possible d'intégrer cette troupe justement ? Enfin, est-ce que c'est ouvert à tous ? Est-ce qu'il y a un public particulier ou pas du tout ?
Alors, d'un point de vue professionnel, c'est Anne-Claire et moi qui créons les spectacles. Anne-Claire est vraiment à la tête de la direction artistique de la compagnie. C'est elle qui va choisir à quoi va ressembler le l'image de la compagnie. Elle est à l'origine de la majorité des choix de texte et de projet. Par exemple, De Feu et Lumière, c'est un spectacle que j'ai écrit mais que j'ai entre guillemets soumis à Anne-Claire pour voir si ça passait dans la ligne artistique du poulpe. Donc professionnellement, c'est nous qui choisissons avec qui on veut travailler, donc avec des intermittents, des comédiens, des musiciens, des scénographes, tout ça. Et après, pour ce qui est des ateliers amateurs, c'est ouvert à tous, à toutes. Et là, il suffit d'aller sur le site compagniedupoulpe.net pour voir un petit peu quels ateliers on donne et où. Et à partir de ce site-là, on peut s'inscrire. Il y a tous les formulaires d'inscription.
C'est ça, donc c'est ouvert à tous, tout le monde peut venir.
Voilà, pour les ateliers amateurs, en tout cas, oui, c'est vraiment ouvert à tous.
Elle prend les infos en même temps pour elle, peut-être.
Et tu as parlé de spectacle de feu et de lumière. Donc, si j'ai bien regardé avec le site, donc ça parle d'hommes, de dieu et de soleil. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? D'où est venue cette idée ? Enfin, raconte-nous un peu tout ça.
Ok, alors je reprends juste sur le titre, c'est De Feu et Lumière.
De Feu et Lumière, pardon.
C'est normal de se tromper parce que en français c'est pas juste. Normalement on devrait dire De Feu et de Lumière ou De Feu de Lumière. Mais ça s'appelle De Feu et Lumière parce que c'est en référence à l'œuvre Of Fire and Blood de George Martin qui a écrit aussi les Game of Thrones. Donc en traduction littérale, si on traduit littéralement l'anglais, on n'a pas le de qui revient. Mais effectivement, c'est en français c'est pas juste. Donc, De Feu et Lumière, qu'est-ce que c'est ? C'est un spectacle que j'ai commencé à écrire il y a 12 ans. Et c'est marrant que, Mathieu, tu sois là avec la culture vidéoludique, parce que c'est un spectacle qui part de mon amour pour les jeux vidéo, et notamment de mon amour pour la série des Dark Souls. qui est une série de jeux vidéo avec...
Il a qui est en tout cas.
On va en parler un petit peu tout à l'heure avec les futures sorties.
Parfait, parfait. Mais qui a un univers que vraiment j'adore, c'est de la dark fantasy, ça aborde des thèmes qui me parlent énormément avec une idée de cycle, une idée de respect de comment le monde tourne. Il y a des histoires de folie, il y a des histoires d'usurpation, il y a des histoires de divinité, et surtout il y a pour moi tout un axe que j'adore qui est celui du fondamentalisme, c'est-à-dire dans les jeux Dark Souls, il y a des gens qui croient en des choses mais qui n'ont aucun moyen de prouver que ce en quoi ils croient existe, mais ils en font des causes qui mènent à la guerre, qui mènent à la désolation, au chaos, comme dans la réalité, j'ai envie de dire. Et du coup, De Feu et Lumière s'est inspiré un petit peu de tout ça, de tous ces thèmes que j'aime beaucoup. C'est un spectacle donc qui parle effectivement d'hommes, de dieux, de soleil, d'amour. L'idée, c'est que on est trois sur scène et on vient comme des conteurs qui viennent raconter une histoire qui a eu lieu il y a très longtemps, qui n'a peut-être jamais eu lieu, qui parle d'un monde qui n'a peut-être jamais existé. On n'en sait rien. Et on vient dérouler une histoire qui semble être très religieuse, très justement avec des croyances très fortes sur le monde fonctionne comme ça. À la fin, il y a un petit twist que on récupère ou pas, qui vient dire peut-être que tout ce qu'on a dit, c'est pas vrai. Et donc voilà, on joue avec la crédulité du spectateur. Et une autre chose dont je m'inspire beaucoup, c'est la façon de raconter les histoires qu'a eu si je me trompe pas, Hidetaka Miyazaki, le créateur des Souls, qui raconte ces histoires de façon très cryptique. C'est-à-dire que on a un premier tableau qui nous est donné, et si en tant que joueur on s'investit pas dans la recherche d'éléments pour comprendre ce qui se passe, on comprend à peu près rien. De Feu et Lumière, c'est pareil, tout est très cryptique. Il y a du conte en français et du chant en anglais. Le conte en français est écrit de façon un peu hermétique. Ça s'inspire pas mal de l'hermétique et de la façon dont on peut parler d'alchimie dans les bouquins. Donc, c'est-à-dire que on comprend pas forcément grand-chose, mais on voit qu'il y a un message qui tente de passer. Et les chansons en anglais, déjà, sont chantées avec mon accent anglais, qui est ce qu'il est. Donc, voilà, donc on comprend plus ou moins. Et en plus, j'ai pas mal écrit, en m'inspirant encore une fois d'Hidetaka Miyazaki, je me suis pas mal servi de l'anglais shakespearien et du vieil anglais qui viennent donner d'autres sonorités aux mots et que moi j'aime beaucoup parce que ça vient apporter un espèce de mystère dans tout ça. Donc, on écoute ça, on comprend pas forcément tout, on sent qu'il y a quelque chose qui tente de passer, mais peut-être qu'on peut s'arrêter juste à la musique qui a pour but d'être une troisième clé de lecture et d'être peut-être plus universelle.
Et c'est ça, on peut avoir justement différentes approches justement de ce spectacle. Et pourquoi justement de feu aussi ? On parle de lumière, on parle de chant, etc. Mais on parle aussi de feu. Pourquoi exactement ? C'est en lien avec le soleil ou est-ce qu'il y a autre chose avec ça ?
Il y a beaucoup de choses avec. En fait, De Feu et Lumière, le spectacle s'inclut dans un univers étendu que je développe du coup depuis une dizaine d'années. Et le feu et la lumière, c'est deux éléments très importants. L'idée, c'est que le feu représente le soleil et représente le masculin. Et la lumière représente... l'amour en soi et représente le féminin, et il y a tout un jeu sur le feu et la lumière ne sont pas la même chose. La lumière du feu n'est pas la même que celle desquelles la lumière lumière, et cette lumière est représentée par une déesse dont on n'entend pas parler dans De Feu et Lumière, mais dont on entendra peut-être parler si j'arrive à écrire la suite.
Ah ben, on l'attend avec plaisir, celle-là.
Très philosophique, décidément, pour toi, cette journée. Marie, est-ce qu'on garde au chaud quelques questions, peut-être? Simon, je sais pas où on est né dans le programme.
On peut enchaîner directement. Merci en tout cas à vous trois. Et puis, on vous retrouve juste après, du coup. Mais tout de suite, on fait une petite pause musicale.
Dis-moi où on va quand on touche le fond, est-ce qu'on peut encore creuser un peu plus profond, toi et moi dans l'octogone, pas d'amour, sang bleu sur le cœur. Amour, cyclone, comme un boomerang qui revient me casser les dents. Je revenais toujours comme un chien, le regard brûlant, plus rien ne compte. Toucher ma cible au centre. Bravo, t'es gagnant. Un coup, tu prends trois, tu donnes. L'amour s'abîme quand commencent les pleurs. Pardon, toi et moi dans l'octogone. Y'a pas d'amour, sang bleu sur le cœur. Amour, cyclone.
Amour cyclone de Stiletto. Vous êtes toujours sur Radio G et après cette petite interruption musicale, on se retrouve encore pour parler de poulpe et de spectacle avec Marie, Pierre Benoît et Quentin pour la seconde partie de l'interview.
Topette sur Radio G.
Tu connais ça, Quentin?
Oui, ça me dit quelque chose.
Ça te dit quelque chose, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'on est en train d'entendre, là?
On entend le début du prologue du CD de Deux Feux et Lumière.
J'imaginais bien que c'était un prologue, du coup, je me permets de le laisser en fond musical. Je sais pas quand intervient ta voix, si c'est dans longtemps ou pas.
Il n'y a pas de voix sur le début, c'est juste guitare, violon.
Bon, bah, en tout cas, c'est très sympa. Je sais pas si ça résonne avec toi, Marie, ce que tu découvrais du spectacle et ce que tu commençais à imaginer, ces premières notes qu'on entend.
Si, si, ça rentre un peu, on va dire, un peu la DA que j'imaginais, etc. Enfin, c'est vraiment, ça a l'air vraiment sympa et tout. Et justement, bah, ça fait 12 ans que tu travailles dessus. Comment, on va dire, t'es venue l'idée il y a 12 ans? Enfin, qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour que tu dises, bah, je vais en faire une pièce?
C'est venu petit à petit. En fait, au début, donc j'ai fait mes études au Conservatoire de théâtre d'Angers. Et à Angers, j'ai commencé à écrire sur cet univers. D'abord, j'ai écrit un petit peu des brouillons qui allaient dans tous les sens sur les thèmes que j'avais envie de traverser. Et le tout est venu notamment d'un autre groupe de musique avec lequel je jouais avant, qui était un groupe de rock qui s'appelait Iris. Et des thèmes abordés avec Iris, j'ai voulu, moi, aller chercher d'autres choses et plus loin. J'ai commencé à écrire dans tous les sens. Et en fait, j'ai commencé par écrire... Enfin, ensuite, j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelait Looking for Human et que j'ai pu monter au conservatoire, que j'ai pu jouer. Et en fait, après, j'ai voulu plus aller vers l'axe musical. Je ne saurais pas trop dire comment s'est fait la transition, mais j'ai repris l'histoire de Looking for Human que j'ai mis en musique et donc en spectacle, en conte musical. Voilà.
D'accord. Bah, c'est vachement intéressant. Franchement, on va dire la démarche artistique, la création et tout ça, c'est toujours fascinant, je trouve. chez nous, les humains, la manière de créer. Et aussi, tu es pas venu uniquement parler de feu et lumière. Ce spectacle-là, pardon. On va parler aussi de Un fil à la patte, qui va être présenté justement le 24 juillet. Donc, c'est un spectacle tiré d'une œuvre déjà existante de Georges Feydeau.
Oui.
Je l'ai bien dit cette fois-ci. Est-ce que, bah justement, tu peux nous parler un peu de ce spectacle, en quoi ça consiste? Enfin, voilà.
Alors, Un fil à la patte, c'est donc un vaudeville, une œuvre de Georges Feydeau. Donc, c'est ma première mise en scène professionnelle. Jusque-là, j'avais fait de la mise en scène, mais que en amateur. Et là, c'est ma première mise en scène professionnelle. Première mise en scène professionnelle, oui, c'est ça. Je l'ai bien dit, pardon. l'histoire, rapidement, c'est l'histoire de Bois d'Anguin qui va se marier à Viviane. Mais sauf que avant de se marier à Viviane, il faut qu'il largue sa maîtresse, Lucette. Sauf que, comme dans tous les Feydeau, le personnage principal n'ose jamais dire la vérité. Il s'embourbe dans des mensonges et c'est ça qui crée les quiproquos et tout ça. Donc là, c'est exactement ça. Bois d'Anguin n'ose pas dire à Lucette qu'il veut la quitter. Donc ça, forcément, ça empile les mensonges sur sa tête. Et plus la pièce avance, moins il ne sait comment dire ce qu'il a à dire. Et l'idée, c'est que j'ai voulu accentuer cet empilement de mensonges en mettant en scène quelque chose de très rapide. Ça va très vite. Et ça enchaîne les blagues, les conneries, les situations improbables, absurdes. C'est très physique. On a notamment un personnage qui s'appelle le général Irigoy, qui est un général qui vient d'un pays, c'est jamais dit, mais on suppose que c'est Amérique latine ou Espagne, et qui en fait est plein d'énergie, un espèce d'ancien militaire. Et le comédien Fabien Castel qui joue Irigoy. Il a intérêt d'avoir une bonne condition physique parce que il n'arrête jamais de bouger, de se jeter à terre, de rouler par terre, des choses comme ça. Donc voilà, c'est une pièce vraiment comique. On n'est plus du tout sur le même registre que Feu et Lumière. Là, on est vraiment dans le comique pur. Ça va vite et il y a beaucoup de conneries dedans.
Alors tout ça, je ne sais pas si on l'a suffisamment précisé et insisté dessus. Ça s'inscrit dans le cadre de la tournée du Poulpe, hein, c'est peut-être un format. On sait que les étés pour la compagnie sont toujours des temps forts qu'on essaie de soit faire un festival, soit faire des marchés de créateurs, créatrices et tout ça. Donc là, c'est un nouveau format ou ça s'est déjà fait?
Oui, tout à fait. Alors ça s'est fait l'année dernière. On avait déjà la tournée du Poulpe l'année dernière. En fait, jusque là, on faisait le festival du sous-marin où effectivement on faisait venir d'autres compagnies, on faisait venir un marché de créateurs. Et en fait, on s'est dit l'année dernière que c'était quand même énormément de travail en termes d'organisation et que ça, plus la création de spectacles vivants, plus les ateliers, ça commençait à faire beaucoup. Donc on s'est dit qu'on allait resserrer un petit peu notre actualité d'été en faisant tourner nos spectacles dans un réseau plus, moins institutionnel. C'est-à-dire que là, par exemple, tous les spectacles qu'on fait sont chez l'habitant. Donc soit au château de Briançon, par exemple, le 24 juillet pour Un fil à la patte, ou sinon, là, le 14 juin, la première date de la tournée du Poulpe, le 14 juin, c'est chez une amie à Nantes. Voilà, c'est que des dates chez l'habitant. À savoir que les adresses précises sont pas écrites. Il faut réserver pour qu'on envoie l'adresse précise pour éviter de balancer les adresses partout.
Projet X, sinon, voilà. On connaît.
Comment?
Les gros projets comme ça,
c'est
Projet
ça.
X, comme le film.
Exactement.
N'importe comment.
On va éviter de faire ça. Donc voilà, oui, ça s'inscrit dans la tournée du Poulpe qui est la nouvelle formule de nos événements d'été.
Et alors, voilà. On a justement une tournée du Poulpe, du coup, en été, mais est-ce qu'on a justement une autre tournée en hiver, ou même une autre saison d'ailleurs? Est-ce qu'on en trouve plusieurs?
Oui, l'idée c'est que, de septembre à juin, on est en réseau institutionnel, c'est-à-dire on va nous retrouver en salle. On a par exemple De Feu et Lumière qui va jouer à Nancy au Théâtre de la Voyageuse en novembre. On a un autre spectacle qui s'appelle On répète Andromaque qui va jouer à Avrier, Sarre Georges Brassens ou même au Théâtre des Dames au Pont de Cé. On a un spectacle qui s'appelle le Marathon Théâtral, qui est un spectacle qu'on fait quasiment que en milieu scolaire, où en fait on crée un spectacle avec les élèves en moins de temps possible, c'est-à-dire en général on a 6 heures de répétition, et en 6 heures de répétition on monte une demi-heure à 40 minutes de spectacle. Voilà, et tout ça, ça se fait plutôt l'hiver. Mais après, les spectacles filent à la patte, De Feu et Lumière, ou même À peine le temps d'une pensée, qui est le troisième spectacle de la tournée. Tous ces spectacles, on les retrouve aussi l'hiver en salle ou même chez l'habitant. Voilà.
Ah, et puis il y a un autre flyer avec lequel tu es venu ce soir, Quentin.
Oui.
Rejoins la Loire Académie. On garde ça au chaud.
Ok.
Et puis en plus, je pense que Marie a encore plein d'autres questions à te poser sur les spectacles, peut-être aussi plus sur les propos artistiques en tant que tel, ou d'autres questions. Marie, on aura encore du temps. Mais je me tourne vers Simon, le maître de cérémonie, parce que je crois qu'on a une nouvelle séquence qui s'ouvre. On fait une pause. Hein.
C'est ça, exactement. Bah, merci en tout cas une nouvelle fois pour cette deuxième partie d'interview. Il en restera du coup une troisième à la fin. Mais tout de suite, on l'a dit dans l'introduction, on accueille Mathieu et sa chronique Let's Game.
Let's Game, la chronique gaming de Topette avec Mathieu.
Et oui, ça fait quand même, mine de rien, un mois et demi que je n'étais pas revenu. Et pendant ce laps de temps, l'actualité gaming, elle s'est pas arrêtée. Début mai, Mister MV a organisé son traditionnel marathon caritatif. Le Z-Event, autre rendez-vous incontournable du streaming solidaire, quant à lui, a confirmé son retour cette année. Et depuis quelques jours, la Summer Game Fest enchaîne les annonces et les révélations. Ajoutez à cela les nombreuses sorties prévues dans les prochains mois, il y a fort à parier que plusieurs d'entre nous auront du mal à décrocher de leur console ou de leur ordinateur. Si vous aviez prévu de vous profiter du soleil cet été, faudra peut-être revoir un peu vos priorités. Mais vous vous demandez peut-être qui sont Mister MV et Zerator. Ce sont deux figures majeures du streaming français et du monde du jeu vidéo. Aux côtés d'autres créateurs bien connus comme Domingo, ils contribuent depuis plusieurs années à faire rayonner le gaming bien au-delà de leur communauté. Donc revenons d'abord à Mister MV. Présent depuis de nombreuses années sur la plateforme Twitch, il organise depuis 6 éditions du Spidon, marathon caritatif au profit de Médecins du Monde. L'événement met notamment à l'honneur le speedrun. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une discipline consistant à terminer un jeu vidéo le plus rapidement possible. Certains joueurs parviennent même à finir en une quinzaine, une vingtaine de minutes, voire moins, certaines aventures qui demanderaient normalement plusieurs heures. Cette année encore, les performances ont été impressionnantes. En seulement 48 heures de direct, la communauté a permis de récolter 2 344 000 euros pour l'association. Une preuve supplémentaire que le jeu vidéo est loin d'être une activité solidaire. Et accessoirement, que les gamers savent aussi sortir la carte bleue pour autre chose que des costumes virtuels ou des skins. Ce que j'apprécie particulièrement avec ce type d'événement, c'est sa diversité. Hommes, femmes, personnes transgenres, personnes non-binaires ou encore personnes vivant avec différentes formes d'anxiété, de stress ou d'autres difficultés se succèdent à l'écran avec la même passion et réalisent parfois des expériences extraordinaires. Une belle démonstration de l'univers du jeu, que l'univers du jeu vidéo est bien plus ouvert et inclusif qu'on ne l'imagine parfois. Puisqu'on parle d'événements caritatifs, impossible de ne pas évoquer le Z-Event. Vous ne connaissez pas ? Et pourtant, même le président de la République ne manque jamais de saluer l'initiative. Créé par Zerator, le Z-Event est devenu, au fil des années, le plus grand marathon caritatif du stream francophone. Lors de l'année 2025, 49 streamers et streameuses étaient réunis sur place, tandis que près de 280 créateurs de contenu participaient à distance. Ensemble, ils ont animé plus de 55 heures de direct sans interruption afin de récolter des fonds pour plusieurs associations reconnues d'utilité publique. Résultat, 10 200 000 euros récoltés. Comme quoi, réunir plusieurs centaines de streamers dans une même opération peut produire autre chose que des clips improbables sur les réseaux sociaux. Là encore, difficile de prétendre que les joueurs vivent chacun dans leur coin lorsqu'on voit une telle mobilisation. Mais l'actualité gaming, c'est pas seulement la solidarité, c'est également les jeux de demain. Depuis plusieurs jours, tous les regards sont tournés vers la Summer Game Fest, le grand rendez-vous mondial du jeu vidéo organisé chaque année en début juin. Amis gamers, préparez vos carnets et probablement vos listes de choix. Le bal a été ouvert par le State of Play de PlayStation, avec son lot de surprises. Wolverine, pour les amateurs d'action musclée. Le retour de licences emblématiques comme Tomb Raider, Stuntman pour les plus nostalgiques. Quelques sous de like pour toi, Quentin. Particulièrement prometteur. Et aussi un nouveau Rayman qui ont fait réagir de nombreux fans. Xbox n'a pas tardé à répliquer. La firme américaine a notamment présenté son nouveau Gear of War, un remake du premier Halo, le retour de Crazy Taxi, un jeu dans l'univers de Hellblade, le remake de Persona 4, l'annonce de Persona 6, ainsi que Fable 4, l'un des jeux les plus attendus de ces dernières années. Bref, de quoi remplir plusieurs centaines d'heures de jeu. Et plusieurs semaines d'explications à votre entourage pour justifier l'achat d'un nouveau titre ou l'absence lors des repas de famille. La plupart de ces jeux sont prévus fin 2026 ou 2027. Mais comme tous les passionnés le savent, un autre jeu occupe déjà toutes les conversations. Le 19 octobre 2026, Pierre Benoît.
Ou 2027
Peut-être.
Qui sait?
Normalement 2026, hein, sauf nouveau report. GTA 6. Un événement tellement attendu qu'il influence déjà les calendriers de sortie de nombreux éditeurs. Certains développeurs préféreraient probablement affronter un boss final dans un Dark Souls, justement, plutôt que de lancer le jeu la même semaine que GTA. Car bien évidemment, personne n'a prévu de sortie au cours de ce mois. Et ce n'est pas terminé. Pour l'instant, tous les regards se tournent vers le dernier, Nintendo. La firme japonaise n'a pas encore dévoilé toutes ses cartes, mais selon plusieurs fuites qui circulent actuellement, un Nintendo Direct serait prévu dans les prochains jours. Comme toujours avec Nintendo, il convient de rester prudent tant qu'aucune annonce n'est officielle. Mais les spéculations vont bon train et les fans espèrent des nouvelles exclusivités. Peut-être le retour de quelques licences historiques, pourquoi pas? Un nouveau Mario 3D, disparu depuis Mario Odyssey, un remake des légendaires Zelda, Ocarina of Time et Twilight Princess, eux aussi vont bon train. Et comme chaque rumeur de Nintendo Direct, Internet se divise en deux camps, ceux qui affirment que cette fois-ci c'est sûr, et ceux qui rappellent qu'il faut attendre et qu'on a entendu exactement la même chose il y a 3 mois. Quelque chose est sûr, entre les événements caritatifs, les records, les conférences qui s'enchaînent, les sorties qui se profilent à l'horizon, 2026 est déjà en train de marquer l'histoire du jeu vidéo. Quant à notre temps libre, il est officiellement porté disparu.
Nintendo qui sort sa dernière carte, c'est drôle ça, parce que du coup c'était un fabricant de jeux de cartes.
Jeux de cartes,
voilà, pour la petite histoire, voilà, la tartine qu'on étale de connaissances. Simon.
Et ben voilà, une belle chronique centrée sur les jeux vidéo qui, je pense, a beaucoup plu à Marie. Et bien sans plus tarder, on la retrouve pour la dernière partie de l'interview du jour.
Topette avec Pierre Benoît. Donc juste avant du coup la petite pause du coup jeu vidéo, on a commencé à parler justement du deuxième petit flyer que tu nous as donné, Quentin, c'est rejoins la Loire Académie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, bien sûr. Alors la Loire Académie, c'est un stage sûrement le plus gros stage qu'on ait jamais organisé avec la compagnie du Poulpe, qui aura lieu du 19 au 25 octobre 2026. Et c'est un stage de chant, danse et théâtre. L'idée, c'est que c'est un petit peu inspiré de ce qui se passe dans la Star Academy. Pendant une semaine, les participants au stage vont avoir des cours intensifs de chant avec un coach vocal, de danse avec une chorégraphe et de théâtre avec Anne-Claire Joubard, donc de la compagnie du Poulpe, pour les samedis et dimanches, donner des représentations au Cube de Longuet. Donc le Cube de Longuet, c'est une sacrée salle à Longuet avec tout un pont de lumière automatique qui permet de faire des effets incroyables. Donc l'idée, c'est que c'est un petit peu une célébration de la pop culture. C'est un projet qui est vraiment mené à fond par Anne-Claire Joubard, qui est justement une grande fan de la pop culture et qui du coup veut un peu exprimer cet amour-là au travers de cet événement. C'est un événement qui est ouvert à partir de 15 ans et jusqu'à l'âge qu'on veut, tant qu'on peut encore danser, chanter ou faire du théâtre. Et il est recommandé d'avoir une petite fibre artistique dans l'un des trois domaines. Alors, on ne demande pas d'avoir des bases de chant, de folie ou quoi que ce soit, mais juste être attiré par un des trois domaines, avoir déjà touché un petit peu à un de ces trois domaines, c'est pas mal, pour pouvoir justement, en fait, briller encore plus dans ces trois domaines.
Ouais. Donc juste quand même, GTA 6 ne vous fait pas peur. Selon
Soit GTA 6 va plier devant la Loire Academy, soit il sortira en octobre 27 comme tu disais.
Exactement. Ouais.
Il y a pas le choix.
Mais du coup, on revient du coup avec cette idée de poulpe. Justement, tout à l'heure, tu nous disais le poulpe, le fait qu'il touche à tout, etc. Là, du coup, rejoint la Loire Academy, c'est vraiment aussi, j'ai l'impression, dans l'idée justement que vous voulez transmettre avec la compagnie du poulpe, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Oui, entre chant, danse et théâtre, représentation devant un public, c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis le début avec la compagnie du poulpe. C'est d'avoir vraiment de donner vraiment la possibilité à l'art d'être accessible et ce sous toutes ses formes depuis le début avec la compagnie. On joue dans les jardins, on essaye d'amener des spectacles, des concerts dans des zones rurales qui n'ont pas forcément accès à des salles de concert ou des salles de spectacle ou des saisons culturelles. Donc ça, c'est un petit peu la Loire Academy, c'est un petit peu la consécration de tout ça. C'est un peu le stage ultime de donner accès à l'art à tout le monde.
Oui, il faut pas s'attendre à de caméra, par contre. Hein.
Non. Mais pendant un moment, on y pensait, hein, de filmer les répètes, tout ça, machin. Enfin bon.
Elle dit ça parce que je pense vraiment qu'elle se positionne en octobre 2026. Elle va pas acheter GTA, à mon avis. Je dis ça comme ça. Est-ce qu'on parle quand même, on survole au moins les deux autres spectacles dans le cadre de la tournée du Poulpe ou pas,
ouais,
Quentin?
Bien sûr.
Les mentionner quand même, peut-être pas aller aussi loin dans l'explication qu'on a pu prendre sur les deux autres spectacles, mais au moins les mentionner et puis expliquer un petit peu de quoi ça parle.
Eh bien ouais, pas de problème. Donc le 21 juin, le deuxième spectacle de la tournée, c'est le spectacle À peine le temps d'une pensée, qui est une lecture spectacle qu'on a monté en coproduction avec la compagnie Ceci et Cela. Et c'est un spectacle qui parle de la mort, mais aussi de la vie et de l'amour. L'idée, c'est qu'on a réuni 19 textes de plein d'auteurs et de plein de références différentes. Ça va de Florence Foresti à Christian Bobin, en passant par Amour, gloire et beauté et en allant vers Khalil Gibran. Donc ça va vraiment dans tous les sens. Et voilà, on parle de la mort et comme nous l'a dit une fois un spectateur, ça nous a fait très plaisir, on essaye de remettre la mort à sa place.
Grosse ambition après GTA 6.
Après GTA 6,
décidément.
On va tout mettre sur l'échelle GTA 6.
C'est une lecture spectacle, hein, c'est ça ?
Oui, lecture spectacle.
Donc c'est quoi la configuration ?
L'idée, c'est que on est trois au plateau, on a trois pupitres et on a nos textes sur les pupitres. Donc la plupart des textes, on va vraiment les lire au public. Donc c'est vraiment un exercice différent que celui d'apprendre un texte par cœur et de le jouer. Ça met vraiment dans une autre configuration, que ce soit en tant qu'acteur ou en tant que spectateur. Et ça reste spectacle parce qu'on a quelques moments qui sont vraiment joués, des textes qu'on a appris par cœur, qu'on vient vraiment jouer au public.
Voilà. Ok. Tu connaissais, toi, Marie, ce type de proposition théâtrale ?
Oui, vaguement. Je pense, plus petite, que j'ai dû y assister à un moment. Mais moi personnellement, j'aime bien le fait qu'on mélange un peu ce côté lecture, spectacle et tout. Moi, je trouve ça super. Et je vois aussi qu'il y a un autre spectacle encore, c'est le Faux Procès.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors ça, c'est un stage aussi. L'idée, c'est qu'on essaye de toujours terminer nos événements d'été par un stage. Et là, cette année, c'est le Faux Procès. Donc pendant une semaine, on écrit, on monte un faux procès avec les participants, donc de 12 ans à l'âge qu'on veut. Et c'est un stage qui a pour but de travailler l'éloquence, la prise de parole en public, le fait de se tenir sur une scène, d'oser. Donc c'est un stage parfait avant la reprise des cours pour se préparer aux oraux, aux conférences, voilà, je ne sais quel autre exercice d'oral devant un public.
Colin, il est déçu, il aurait bien aimé en profiter, ça se trouve, de stage. Ça a été toi, tes oraux, ouais ?
Bah oui, bah on attend toujours des résultats positifs, mais oui, c'est bien passé.
Et tu rejoins ce que dit Quentin, c'est que le théâtre peut aussi... l'oral, on n'est pas forcément préparé à être en scène un peu comme ça, même si c'est dans un cadre très conventionnel, dans l'école et tout, tu t'es senti comment?
Non, mais complètement, c'est vrai que moi je suis pas quelqu'un du tout qui est à l'aise à l'oral à la base, ça allait de mieux en mieux au fil des années, mais c'est sûr que le théâtre, on a fait pas mal d'exercices d'éloquence aussi dans le cadre de nos cours, ça aide complètement aussi à se libérer.
c'est des stages qu'il faudrait presque proposer à l'école ou à l'université, ça, Quentin ?
Bah, c'est ce qu'on fait, en tout cas, avec le marathon théâtral dont je parlais tout à l'heure. Le marathon théâtral a vraiment cette visée-là de mettre les élèves au travail directement, sans échauffement, sans préparation. On va directement dans le travail, on fait de la lecture, on apprend à être plus à l'aise avec son corps devant un public. Ça fait vraiment partie de tous ces objectifs.
Ouais. Oui, c'est un peu aussi une sorte de prélude, on va dire, à rejoindre la Loire Academy, alors peut-être.
Oui, c'est vrai qu'on pourrait le voir comme ça. Ouais. Si vous faites le faux procès, on vous attend après à la Loire Academy.
Bon, bah voilà, en tout cas, il n'y a pas de quoi s'ennuyer du côté de la compagnie du Poulpe, d'ailleurs. Parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de le placer, mais c'est pas moi qui anime ce soir, donc c'est compliqué. Mais tu parlais des abysses, j'avais envie de dire que l'abysse ne fait pas le poulpe.
Oh, oh. Wow. On nous l'a jamais fait et vraiment je retiens parce que j'aime beaucoup.
Ou peut-être qu'il aurait fallu que Simon fasse l'animation jusqu'au bout.
non, je retiens, j'aime beaucoup.
Bon, en tout cas, bah, merci Marie pour ces précieuses questions que tu as posées à Quentin. Merci Simon pour l'animation. Merci Mathieu pour Let's Game qui a bien rattrapé son mois d'absence aussi. On a fait un bon point complet d'étape de l'univers du jeu vidéo. Merci Colin pour le Flash Info et pour tes remarques toujours pertinentes. Quentin, avant de se quitter quand même, oui. Donc la compagnie du Poulpe, on a compris, c'est une compagnie professionnelle qui propose parfois des stages, qui a des spectacles, notamment on répète Andromaque, on en a beaucoup parlé dans
oui,
Topette,
tout à fait.
Et qui fait des temps forts comme cette tournée du Poulpe pour cet été. Qu'est-ce qu'il faut retenir ?
Il faut retenir que toutes les informations sont disponibles sur compagniedupoulpe.net si vous voulez en savoir plus sur la ligne artistique de la compagnie, si vous voulez avoir toutes les dates de tous les événements à venir, parce qu'on a la tournée du Poulpe, mais on a déjà un calendrier qui se remplit vraiment bien pour 2026-2027. Et il faut retenir que on est une équipe, on aime bien travailler sérieusement, être exigeant, mais on aime bien aussi bien rigoler, bien manger et s'amuser.
Bien manger, je m'attendais pas au bien manger à ce moment-là.
C'est tellement important de bien manger, ça change une équipe.
Ouais, il y a un cuistot dans la compagnie, c'est ça ?
On a la maman d'une personne de la compagnie qui nous fait à manger des fois et ça change tout. Sur un temps de répétition de résidence, c'est incroyable de bien manger.
Là, il est bientôt 19h, je commence à avoir faim du coup maintenant. La Loire Academy aussi, qui arrive après, ça c'est important. C'est au même endroit qu'on retrouve les infos ?
Tout est sur le site, oui. Vraiment, tout est sur le site compagniedupoulpe.net.
Donc là, on est sur un stage.
Là, on est sur un stage. La Loire Academy, c'est un stage. Le faux procès aussi, c'est un stage.
Et puisque tu es là, de feu et lumière, à part dans la tournée, est-ce que ça va continuer à évoluer, ce spectacle ? Est-ce que cette aventure qui a commencé il y a 12 ans a une suite, une ambition nouvelle ?
Ouais, elle a beaucoup trop d'ambition par rapport à ce que j'arrive à faire. Mais oui, il y a 4 dates dans la tournée d'été. Ensuite, on joue 2 fois à Nancy. Et là, on a quelques options qui sont en train de se placer pour l'année prochaine. Et il y a l'objectif, l'ambition de faire un deuxième volet à De Feu et Lumière. Là, pour l'instant, c'est De Feu et Lumière, le premier à parler. Le deuxième, normalement, devrait s'appeler De Feu et Lumière sont leur couronne. Et ce sera la suite de cette histoire.
Bon, voilà. En tout cas, l'univers, tu nous as plongé en plein dedans. Et je crois comprendre, Marie, que ça t'a pas mal plu. Qu'est-ce que t'as retenu de cette compagnie du Poulpe et de Quentin ou des spectacles, toi ?
Eh ben, qu'il va falloir que je trouve le temps d'y aller.
Et voilà, mais c'est sincère. Je pense honnêtement qu'elle va noter dans son agenda les différentes dates qu'on a évoquées, qu'on peut retrouver sur le site internet. Donc, je te remercie, Quentin, d'être venu dans Topette ce soir.
Merci beaucoup à toi de m'avoir invité.
On va se quitter avec la piste numéro 3 de l'album De Feu et Lumière qui s'appelle To The Sun.
Oui.
Un petit mot peut-être sur le titre ?
To The Sun, c'est le début de l'histoire et c'est une prière au soleil. Donc le personnage principal fait au soleil.
Eh ben, c'est bizarre de dire ça, mais on va prier le soleil en se quittant dans Topette ce soir.
Comme il fait pas beau en plus.
Ça va, bah, il mérite encore un petit peu de prière pour faire venir le soleil quand même.
Oui.
Mais on se retrouve demain à 18h10. Prenez soin de vous. À demain et Topette.
Au revoir.
Righteous sun, who enfold us in his rays. grounds us peace and plenty. Hear my prayers, my flames beset by nightmares. Yet on thee, in every man's rest, guarding over our inner light, as a loving Father Lord. By thy grace, he wounds weak in the face of night. Some dare to say that I could be a child born in the dark. Yet I swear that I pray thy light. I swear that I only seek thy light. I beg thee, Lord, righteous Son, grant me the same joyous man. Silence his voice of the green light, tries to fool me in my dreams. And if the world is so pale, so show me the way up to thee. Answer my prayers and my distress. Every night, what are these words? And if they're thine, why those darknesses where the sins you hide from me? I can't bear those curses. So tell, I beg thee, to hear my prayers now.
Je te t'aime, mal formulé, mal rangé, mal habillé dans ma bouche qui tremble. Je te t'aime trop tôt, trop fort, tout près de ta joue qui recule un peu. Je te t'aime comme on claque une porte avec l'espoir idiot qu'elle se rouvre toute seule. Je te t'aime, je te t'aime. Je te t'aime quand même, quand tu ris d'autre chose.
sur des tickets de métro froissés. Je te t'aime en silence dans les ça va et toi échanger. Je te t'aime mal.
Radio G, Radio G.